Alors, eh bien, on va continuer le livre des Actes ce matin ensemble. Et on va lire donc Actes 2, versets 22 à 40. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Alors, on a vu la semaine dernière qu'à la fête de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il est venu remplir le cœur des disciples, des premiers disciples qui étaient réunis. Et à ce moment-là, les Juifs étaient tous ébahis par le miracle qui s'ensuivit, à savoir, ils les entendaient parler des merveilles de Dieu en d'autres langues, des langues étrangères, qu'ils n'avaient pourtant pas apprises. Alors à ce moment-là, Pierre, poussé par le Saint-Esprit, se met à prêcher. Et que prêche-t-il ? Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le nom de Jésus, aujourd'hui, c'est pas un nom qui est très populaire, hein, surtout dans la jeune génération. C'est assez étonnant, aujourd'hui, de voir des jeunes, vous leur parlez de Jésus et vous apercevez qu'ils n'ont même pas reçu d'éducation religieuse. C'est de plus en plus courant, ils sont athées, ils savent très peu de choses, finalement, sur la personne de Jésus-Christ. Pour eux, c'est un vieux personnage, peut-être historique, hein. C'est un philosophe ou un religieux d'un temps passé. À l'ère de la technologie, à l'ère d'Internet, à l'ère de la conquête spatiale, croire en Jésus-Christ de Nazareth, ça semble un peu bizarre. Comment croire ? Comment croire en Jésus-Christ ? Finalement, c'est simple. Pour croire en Jésus-Christ, il faut accepter les témoignages que nous avons encore aujourd'hui. Simplement accepter les témoignages que nous avons encore aujourd'hui. Si aujourd'hui je crois en Jésus de Nazareth, c'est que j'accepte et je crois les témoignages que j'ai de lui et qui me disent que c'est la vérité. Dernièrement, j'écoutais la radio et c'était un dessinateur qui expliquait qu'il faisait des reportages dessins. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça devant les yeux. C'est un reportage, comme un reportage photo, sauf que eh bien, ce journaliste va dessiner les scènes et mettre des petits commentaires. Et il disait, le problème, c'est que les gens n'arrêtent pas de me demander, mais c'est vrai, vraiment, ça s'est passé comme ça Alors il a dit, j'ai résolu le problème. De temps en temps, au milieu de mes dessins, je mets une photo. Et depuis, plus personne me dit, est-ce que c'est vrai? Ils sont tous convaincus, il y a une photo, donc c'est la vérité, ça authentifie. Et on peut dire que c'est vraiment le drame de la génération actuelle. Il faut qu'il y ait quelque chose de visuel. Il faut une photo, il faut un film, il faut de la réalité, la télé-réalité. Et quand ils voient quelque chose, ah ben oui, c'est vrai, je l'ai vu. Bien qu'aujourd'hui on puisse trafiquer, mais c'est de la rigolade, hein. Trafiquer une photo, je l'ai déjà fait pour mes enfants, c'est vraiment facile. Mais il y a une photo, c'est la vérité. Voilà, c'est authentique. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas de caméraman, donc il n'y a pas de film, il n'y a pas de photo, et Dieu ne va pas changer les choses. Certains, aujourd'hui, s'accrochent au suaire de Turin. Ils disent, mais c'est la photographie, finalement, de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le suaire de Turin, ou par le suaire de Turin, que Dieu a voulu sauver les hommes. Ce n'est pas le moyen que Dieu a choisi. Dieu veut simplement qu'on accepte les témoignages que nous possédons aujourd'hui, témoignages qui viennent de Dieu. Et ces témoignages, ce n'est pas un bout de la croix, il y en a plein, de quoi faire beaucoup de croix, ce n'est pas un morceau de tissu, ce n'est pas un bout d'os ou un bout d'épine de la couronne, ce n'est pas ça les témoignages, c'est uniquement les témoignages qui viennent des Écritures, qui nous disent voilà le témoignage. Et ces témoignages que la Bible nous décrit sont suffisamment crédibles et authentiques pour être acceptés et pour croire en Dieu. Ça suffit. Il n'y en a pas besoin d'autres. Aucune photo, aucun film, aucun objet n'est nécessaire. Alors, quels sont ces témoignages? D'abord, il y a le témoignage de Dieu. Et c'est pas rien. Dieu a rendu témoignage à son propre Fils. Regardez, on l'a lu ensemble, Acte 2. On va relire les versets 22 à 24. Pierre dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Pierre nous dit ici que Dieu lui-même a rendu témoignage à son propre Fils. Comment a-t-il fait? D'abord, il dit, mais par les miracles, par les prodiges et par tous les signes qui accompagnaient Jésus-Christ. Et c'est le premier point, c'est que Jésus-Christ a laissé une empreinte forte quand il est venu sur la terre et dans toute cette société judaïque de l'époque. Et il l'a fait par ses miracles, par ses prodiges. Tout le monde, de moins en moins, mais enfin, beaucoup de gens savent encore que Jésus-Christ a fait des miracles extraordinaires. Et les évangiles nous rapportent tous ces miracles. Finalement, c'était les œuvres de Dieu. C'était Dieu qui était en train de faire des œuvres au travers de lui. C'est ce que nous dit Jésus. Il a dit, dans Jean 14, je vous le lis, il a dit, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, ce que Jésus-Christ a fait, c'était les œuvres de Dieu, et c'était le témoignage de Dieu. Que ce soit guérir les boiteux, que ce soit nourrir des milliers, que ce soit même ressusciter des morts, hein, puisqu'il l'a fait, que ce soit encore délivrer des possédés. Tout ça, c'était le témoignage de Dieu, c'était les œuvres de Dieu. Alors, il n'y a eu aucune photo, mais on a les récits ici dans la parole de Dieu, on a tous les récits. Dieu nous dit que c'est là son témoignage et que c'est suffisant. C'est un témoignage suffisant. Regardez Jean 5, Jean 5, Évangile de Jean chapitre 5, versets 31 à 36. Jean 5, verset 31, Jésus dit « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Alors on peut négliger ce témoignage et ne pas faire cas des œuvres qui ont jalonné la vie de Jésus-Christ. Mais ces œuvres attestent qu'il vient du Père. Et les récits des évangiles sont suffisamment clairs, véridiques, pour y croire. Le témoignage de Dieu, il vient aussi, deuxièmement, au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Pierre a dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort ». Et la résurrection, c'est un témoignage puissant que Jésus-Christ vient de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Parce que personne n'est ressuscité des morts après Jésus-Christ. Il est le seul qui est ressuscité. Et quand on est mort, on le sait, on est bien mort. Alors on trouve des témoignages, certes, de personnes qui le disent, qui sont revenues de la mort. Mais ce n'est pas qu'elles sont mortes réellement et que c'était terminé et qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est que eh bien, leur âme, comme on a cet exemple dans les Actes des Apôtres, justement, leur âme était encore là et elle est revenue. Et ils n'étaient pas séparés définitivement de leur corps. Donc ce n'étaient pas des réels morts. Mais Jésus-Christ, lui, son cœur s'est arrêté. Le soldat qui l'a percé l'ayant dit, attesté. Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui l'ont descendu du corps, l'ont reconnu. Ceux qui l'ont mis au tombeau ont bien senti son corps qui était froid, qui était mort, c'était terminé, sans vie. Et puis, trois jours plus tard, seulement trois jours plus tard, il est revenu à la vie. Cette résurrection, elle a été ensuite attestée par des centaines de témoins qui l'ont vu, qui l'ont reconnu. Ça, c'est le témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils. Mais le témoignage de Dieu, il est aussi appuyé par les prophéties qui ont été faites à son sujet, au sujet de Jésus-Christ. Pierre va le démontrer aux Juifs de l'époque. Il va citer le roi David et des paroles du roi David qui a dit sous inspiration, donc il a dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Donc David a écrit ça 1000 ans avant Jésus-Christ et c'est une prophétie qui nous parle de la résurrection. Pourquoi ? Parce que David a connu la mort, hein. David a vu la corruption, son corps, eh bien, est retombé dans la poussière, hein, il s'est corrompu et il n'est pas ressuscité des morts. Donc quand il prophétise ici, il est en train de parler de Jésus-Christ, il dit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, tu ne permettras pas que le Messie, finalement, voie la corruption. » Et les prophéties concernant Jésus-Christ, c'est un témoignage puissant, c'est le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui nous dit « Voilà le Messie, voilà mon Fils ». Voilà ce qu'il va faire ou voilà ce qu'il a fait aujourd'hui avec toutes ces prophéties qui se sont accomplies. Et elles sont tellement nombreuses et inattaquables. C'est inattaquable des prophéties quand vous lisez le livre d'Ésaïe qu'on a retrouvé, qu'on authentifie avant Jésus-Christ. C'est inattaquable. Alors, eh bien, on n'en fait pas cas. Hein. On ne fait pas très attention à ce genre de choses. Mais c'est le témoignage que Dieu a rendu et rend à son propre Fils. Pour conclure sur ce point avec le témoignage de Dieu, je voudrais dire qu'il est crucial. Lorsqu'on partage ces vérités, on peut voir parfois une certaine indifférence. On ne veut pas prêter attention au témoignage de Dieu, mais ce n'est pas sans risque. Regardez 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 12. Ici, l'apôtre Jean dit: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et ne pas croire le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, c'est dire que Dieu est un menteur. C'est faire Dieu menteur. Ça signifie que ce témoignage en soi, il est amplement suffisant pour être sauvé, pour recevoir le salut. Il a suffisamment de poids, il est suffisamment crédible pour que chaque homme puisse croire à ce témoignage. Il y a aujourd'hui sur Internet des milliers de photos qu'on appelle en anglais « fake ». Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, c'est faux, des faux. C'est des mensonges, quoi. C'est des photos trafiquées. On a rajouté quelque chose, on a placé une personne à un endroit, on lui a mis voilà, quelque chose entre les mains. Et il y a plein de photos, vous voyez, c'est de l'humour, hein. On a voulu, on veut faire rire, donc on a fait des choses comme ça. Mais il y a d'autres photos, c'est difficile, hein. On ne le voit pas. Hein. Regardez cette photo, par exemple, de... Comment il s'appelle ? Ben Laden, qui était criblé de balles. Vous avez peut-être vu ça, hein, on a fait circuler cette photo, mais complètement fausse. Hein. Mais pourtant, elle semblait bien réelle. Et donc, il y a toutes ces photos trafiquées qui circulent sur Internet. Et parfois même, on voit les gens mettre beaucoup de crédit. Et puis après, on s'aperçoit, ben non, c'était un fake, en traduction en français, hein, c'était un faux, c'était un mensonge. Eh bien, l'homme d'aujourd'hui, il préfère souvent croire dans des photos comme ça. Et alors, on va partir dans des histoires incroyables, dans des complots. Je ne veux pas dire que les grands gouvernants de ce monde sont des anges, mais des fois, on part vraiment dans des choses extravagantes et plus incroyables. Plus c'est incroyable, plus on veut y croire. Et alors, il y a des photos. Bah, s'il y a des photos, c'est la vérité, hein. C'est la pure vérité. Et on ne veut pas recevoir le témoignage de Dieu que Dieu nous donne dans sa parole. Dieu a dit, hein, dans les derniers temps, ils préféreront croire aux fables plutôt qu'à la vérité. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils. Donc il y a le témoignage de Dieu, suffisant. Mais Dieu nous donne encore un autre témoignage. Il nous donne le témoignage des hommes. Et ça vient ici dans notre texte après le témoignage de Dieu, mais il est là, il est bien réel. Regardez en acte 2 et verset 32. Pierre dit: « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. » Les apôtres, ceux qui avaient été pour la plupart dans la chambre haute, avaient été témoins de la résurrection. Donc, ils étaient des témoins oculaires. Ils ont vu, ils ont expérimenté cette relation avec Jésus-Christ. Ils ont vécu avec lui, ils ont vu ses miracles. Alors, il y a certains, ces témoins ne sont plus en vue aujourd'hui, mais on a ces témoignages dans les évangiles, dans les actes. Et ils en ont témoigné, alors qu'ils étaient encore vivants, aux Juifs qui étaient à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Ils ont dit, mais c'est vrai, nous l'avons vu, nous avons vécu ces choses. Et bien que le témoignage de Dieu soit suffisant, Dieu a voulu qu'il y ait encore aujourd'hui toujours des témoins. Ceux-là sont décédés, mais il y a encore des témoins. Les témoins, ben c'est vous, c'est nous.
c'est les témoins aujourd'hui qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ. Nous sommes les témoins de cette génération. Et on peut témoigner, non pas bien sûr d'avoir vu Jésus-Christ de nos yeux, mais on peut témoigner d'avoir reçu son pardon. On le sait. On peut témoigner de l'avoir vu et de le voir agir dans nos vies aujourd'hui. On peut témoigner qu'il répond à nos prières. On peut témoigner qu'il change nos cœurs, qu'il a changé ou qu'il est en train de changer notre caractère. Ça, on peut le dire, on peut en témoigner. Les chrétiens fidèles témoignent de Jésus-Christ. Ils sont les témoins d'aujourd'hui. Et leur témoignage, il compte quand même pour quelque chose. Dieu se sert de l'histoire de la vie d'un homme, d'une femme, pour parler, pour toucher, pour convaincre. Qu'est-ce que c'est un témoin ? Un témoin, c'est quelqu'un qui peut attester de la réalité d'une chose. Et quand quelqu'un était esclave d'un péché, d'une mauvaise habitude, de quelque chose, et il dit « Jésus m'a délivré » et il le vit, ben c'est un témoin, il atteste, c'est une réalité. Quand quelqu'un était prisonnier de son péché, de ses mauvaises habitudes et qu'il est libéré, c'est un témoin. Quand quelqu'un voit Dieu exaucer ses prières, ben c'est un témoin. Quand quelqu'un trouve la paix, la consolation qu'il n'avait pas reçue auparavant, eh bien c'est un témoin encore. Les chrétiens peuvent attester de la réalité de Jésus-Christ qui est toujours vivant aujourd'hui. Et donc si on est enfant de Dieu, eh bien c'est à nous de témoigner, d'être les témoins. Qu'ont fait Pierre et les autres, ils dirent, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Ils ont partagé ce qui était leur conviction. Paul dit dans l'Épître aux Romains, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Donc c'est à nous de témoigner. Il faut que nous soyons des témoins. Et particulièrement dans ces fêtes, ben c'est une occasion favorable pour être des témoins. Mais il y a un troisième témoignage que j'aimerais vous partager. C'est le témoignage de la conscience. Pierre, dans sa prédication, ne va pas simplement que témoigner des miracles, de la résurrection du Seigneur, mais il va aussi souligner les péchés des Juifs de l'époque. Regardez verset 23. Pierre dit, « Cet homme livré selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Verset 36, il dit, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Et Pierre leur dit pas simplement « Jésus est mort, Jésus est ressuscité, c'est tout. » Il vient souligner leurs péchés. Il leur montre leurs péchés. Il ose leur dire, vous avez péché devant Dieu. Vous n'avez pas fait ce qui était bien. Donc, vous êtes coupables devant Dieu. Ici, ils étaient coupables donc du rejet du Messie, du rejet de Jésus-Christ. Et quand nous témoignons, il ne suffit pas de dire que Jésus est amour. C'est vrai. Dieu est amour. Et qu'il est mort sur la croix pour nous, mais il faut aussi parler du problème du péché. Les hommes ont besoin de comprendre qu'ils sont des pécheurs devant Dieu. Et là, à ce moment-là, eh bien, la loi de Dieu, elle est tout indiquée pour ça. Regardez 1 Timothée 1:8, vous pouvez garder votre main dans Acte. 1 Timothée, chapitre 1, et versets 8 à 11. Il dit... Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Quel est l'usage légitime de la loi ? Eh bien, c'est de l'employer pour révéler la transgression, pour dire, mais attention, attention, Dieu est saint, Il est pur, il déteste le péché et il ne peut pas vous accepter du fait de votre péché. La loi, elle sert à révéler le péché des hommes et nous sommes pécheurs. Ici, Pierre a rappelé aux Juifs de la Pentecôte, vous êtes des meurtriers. Jésus était juste et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et il faut rappeler aux hommes qui sont irréligieux, menteurs, rebelles, orgueilleux, méchants. Parfois on se dit, mais c'est dur quand même, c'est dur quoi, parce que ça heurte, ça choque. Mais Dieu ne sauve jamais en caressant dans le sens du poil. Impossible, hein? Il ne peut pas sauver en caressant dans le sens du poil. Ça va forcément à rebrousse-poil parce que nous sommes des pécheurs. Parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Lorsque Dieu nous a parlé, souvenez-vous, il nous a dit ce que nous avions fait de mal. Et ça nous a fait mal, hein? Il a ouvert la plaie et il nous a dit, tu es pécheur, tu as fait ces choses-là, tu mérites la condamnation. Et à ce moment-là, le témoignage de notre conscience a été réveillé. On a dit, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Et c'est ce que Pierre a fait avec les Juifs. Il a réveillé le témoignage de leur conscience. Vous avez fait ça. Vous êtes pécheurs. Alors, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Ici, les Juifs réalisent et disent, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ils étaient touchés dans leur conscience. Ils ont pris conscience de leur péché. Jusqu'ici, ils étaient tout joyeux. On va à la fête de la Pentecôte. Tout va bien. Et les choses se sont enchaînées très vite. Il y a eu ce miracle, le Saint-Esprit qui descend sur les disciples. Ils sortent dans la rue, ils se mettent à parler en d'autres langues, à louer Dieu. Et là, les Juifs sont ébahis. Ils voient le miracle de Dieu. Ils se disent, mais comment c'est possible ? Et à ce moment-là, Pierre leur parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort pour vos péchés. Jésus-Christ ressuscité pour vous, vous l'avez crucifié, vous êtes coupable. Ils ont reçu ce témoignage et là leur conscience a été ravivée. Ils étaient coupables d'avoir péché contre Dieu. Et la réaction est immédiate. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit d'abord, repentez-vous. La repentance, ce n'est pas un simple remords de ce que l'on fait. Ce n'est pas non plus une simple confession, et c'est important, ce n'est pas une simple confession de nos péchés. C'est une confession, mais c'est une confession qui doit être accompagné de quelque chose d'autre, et c'est accompagné d'un changement, de direction. Quand il y a une confession, c'est pas forcément une repentance. Prenez quelqu'un, il est surpris dans un acte délictueux, et il se retrouve devant les tribunaux, et là, il avoue son crime. Souvent, ça lui vaut une remise de peine. Mais c'est pas forcément une repentance. Hein. C'est oui, j'ai fait ça. J'étais là, je reconnais. Une confession n'est pas forcément une repentance. La repentance, c'est une confession avec un désir de ne plus faire ce que nous faisions. C'est un vrai changement de direction. Donc, il y a un demi-tour. Ça, c'est ce que Dieu attend, demande de l'homme. Une vraie repentance, c'est je confesse et je veux faire demi-tour et ne plus faire ce que je faisais. Ne plus recommencer. Repentez-vous, ça signifie, mais désirez ardemment ne plus faire ce que vous avez fait. Désirez vraiment agir différemment, faites demi-tour. Et il y a trop de repentances qui ne sont pas vraiment des repentances. Des repentances qui sont que des lèvres, mais qui ne sont pas suivies de gestes, de changements qui sont concrets. Ce n'est pas une réelle repentance. Les Juifs qui étaient réunis à la fête de Pentecôte, dire « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Et ces Juifs étaient impliqués de près ou de loin dans la crucifixion de Jésus-Christ. Certains étaient impliqués de très près parce qu'ils avaient participé. Ils étaient parmi la foule, ils ont crié. Ou ils étaient pas très loin et ils ont vu, ils ont entendu ces choses et voilà. D'autres peut-être étaient beaucoup plus loin, mais quand même, hein, l'histoire de Jésus-Christ, elle s'était répandue et ils n'ont pas forcément condamné ces choses. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on disait un prophète, a été crucifié. Ah, voilà. Rien à dire, pas de problème, pas de problème. Mais maintenant, ils entendent « Repentez-vous, repentez-vous ». Donc, repentez-vous soit d'avoir participé à cette crucifixion, soit d'avoir été stoïque et de ne pas avoir voulu prendre la défense de Jésus-Christ, Messie d'Israël. Alors, comment va se traduire leur repentance ? Qu'est-ce qui va faire que c'est une vraie repentance, une repentance qui est sincère ? Pierre le dit, il dit, « Eh bien maintenant, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Donc, pour vous, voilà la preuve de votre sincère repentance. Quand Jésus était là, vous n'étiez pas de son côté. Maintenant, si vous êtes repentant, eh bien prononcez-vous clairement comme quoi vous êtes de son côté. Faites-vous baptiser en son nom. En son nom. Et c'était un message fort pour un juif de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ à la vue de tous ses compatriotes, devant tous. C'était le signe qu'il y avait vraiment une repentance qui était incontestable. Et la repentance, elle s'accompagne d'œuvres qui authentifient la repentance. Paul prêchait la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il disait, mais quand il y a la repentance, il y a des œuvres qui suivent la repentance. Et il est bon de se demander si nos repentants s'accompagnent d'œuvres dignes de la repentance. Et c'est vrai pour tout le monde. Hein. On peut être pécheur, peut-être être encore loin de Dieu, commencer à se repentir, mais y a-t-il des œuvres qui prouvent que vraiment nous nous repentons ? Et on peut être enfant de Dieu et nous repentir, mais finalement, est-ce que c'est juste une confession ? Et il n'y a pas les œuvres qui suivent, qui disent, mais vrai, c'est une repentance et je veux vraiment ne plus faire ça, je veux vraiment ne plus aller dans cette direction. Une vraie repentance s'accompagne d'œuvres. Maintenant, ce qui était une preuve d'une réelle repentance pour les Juifs de l'époque, ce n'est pas forcément ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Je parle donc du baptême. Aujourd'hui, dans notre culture ici en France catholique, un baptême au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas comme un baptême d'un juif au nom de Jésus-Christ à son époque. Alors, aujourd'hui, un baptême, c'est certes un témoignage, hein, ça devient de plus en plus insolite, hein, mais le regard qu'on peut avoir, c'est peut-être, voilà, quelqu'un de religieux ou quelqu'un un peu mystique. Si on veut essayer de comprendre ce que signifiait un baptême au nom de Jésus-Christ ici, là, à cette période des Actes avec ces Juifs, il faut s'imaginer le baptême d'un musulman au Maghreb, aujourd'hui. Et là, vous savez, quelqu'un qui prend position, qui descend dans les eaux du baptême là-bas, eh ben, c'est que vraiment il y a un choix de cœur, hein, parce qu'il y a un enjeu derrière tout ça. Et il y a une vraie repentance et une vraie acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut de la volonté, du courage. C'est très fort. Et c'est pour ça que Pierre a mis l'accent ici dans ce verset, dans ce passage, sur le baptême. Il a dit « Repentez-vous et allez-y, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. » Et là, eh bien, ça sera la réalité. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. En plus, ce n'était pas un baptême dans une salle avec 100 ou 200 personnes, mais c'était un baptême au pied de la muraille de Jérusalem, devant des milliers de Juifs qui étaient là pour la fête de la Pentecôte. Hein. Vous imaginez ça, le témoignage. Devant tous, là, je me déclare pour Jésus-Christ, que vous avez crucifié il n'y a pas très longtemps. Et donc, si Pierre a mis l'accent sur le baptême, c'était vraiment pour que ça authentifie leur repentance. Mais aujourd'hui, le baptême, eh bien, ça a changé. D'ailleurs, quand vous lisez les Écritures, vous voyez que chaque fois que vous êtes invité à croire pour être sauvé, le baptême n'est pas forcément dans le verset. Pourquoi ? Parce que le baptême n'est pas une condition de salut. C'est pas parce que vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ que vous serez sauvé. C'est parce que vous croyez en Jésus-Christ et que vous vous repentez de vos péchés. Ça, c'est très important. Le baptême ne sauve pas. Le baptême vient après une vraie conversion à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on voit dans la suite des actes des personnes qui vont vraiment se convertir, c'est-à-dire croire et se repentir. Ils vont manifester les fruits de l'Esprit, donc être sauvés. Et puis ensuite, ils vont descendre dans les eaux du baptême pour le montrer. Et donc, ensuite, Paul ajoute quelque chose. Il dit, voilà, repentez-vous, soyez baptisés, montrez-le et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand il y a une repentance sincère et quand il y a la foi en Jésus-Christ qui se manifeste, alors Dieu accorde le don du Saint-Esprit. Ça signifie qu'il nous sauve. Hein. Nous donner le Saint-Esprit, c'est le salut, c'est le fait de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. L'homme pense souvent qu'il faut qu'il mérite la vie éternelle, qu'il faut qu'il échange la vie éternelle avec ses œuvres, avec quelque chose. Mais ici, on lit que c'est le don du Saint-Esprit. C'est un don. C'est quelque chose qui nous est donné. Un don, c'est un don. Ça ne se mérite pas. On le reçoit. C'est un don. Qu'est-ce qu'il faut pour recevoir un don ? Simplement, tendre la main, tendre le cœur et dire « je l'accepte, je le reçois ». Et j'aimerais qu'on prenne un dernier verset que nous avons lu et qui nous redit cette vérité. C'est 1 Jean 5, verset 11. 1 Jean 5, verset 11. Ici, il est dit « et voici ce témoignage ». C'est que Dieu nous donne la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ici, le témoignage que Dieu nous donne, c'est que Dieu donne la vie éternelle. Donc, soit vous avez reçu la vie éternelle et vous avez le Fils et vous avez la vie. Soit vous n'avez pas reçu le don de Dieu et vous n'avez pas le Fils et vous n'avez pas la vie. Et donc il s'agit bien de recevoir, c'est-à-dire de croire et de vous repentir avec des œuvres dignes de la repentance en disant vraiment, c'est une repentance sincère, Seigneur, je ne veux plus faire ça, je veux me détourner de mon péché, ce que je sais être péché et je veux faire ce qui est bien. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Quand on le fait, à ce moment-là, on reçoit le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient entrer, vient faire sa demeure dans notre cœur et on est enfant de Dieu. J'aimerais qu'on s'incline dans la prière.